Certains veulent réduire la TVA sur l'énergie.
Il y a un renflement, en réalité, des recettes.
L'idée que l'État s'enrichirait sur le dos de la crise n'est pas une idée qui s'installe dans le pays. C'est une idée que les politiques, et qu'une partie des politiques, sont en train d'installer dans le pays.
Cette guerre est faite en partie au nom du pétrole. Il serait quand même paradoxal que ce ne soient pas les pétroliers qui, d'une manière ou d'une autre, la payent.
D'autres proposent, nous l'avons entendu hier lors des questions au gouvernement, de revenir à la taxe flottante.
Nous avions proposé de remettre au goût du jour une proposition, une mesure qui avait été prise par Lionel Jospin d'ailleurs.
Il n'y a pas aujourd'hui de risque de pénurie pour notre pays. Nos approvisionnements sont sécurisés, nos stocks pétroliers sont mobilisables, notre système tient.
Comment stopper la hausse des carburants et préserver le pouvoir d'achat des Français ? C'est le sommaire de ce Bourbon de Serge, numéro 144. Que faire face à la hausse des prix des carburants et du gaz ? C'est la question qu'occupent les députés depuis qu'ils ont repris le chemin de l'hémicycle. Les marins-pêcheurs, les agriculteurs, les entreprises de BTP, les taxis ou encore les auto-écoles tirent la langue. Certains pourraient bientôt mettre la clé sous la porte. Les ménages installés en zone rurale et périurbaine voient leur pouvoir d'achat prendre un grand coup sur la cafetière chaque fois qu'ils passent à la pompe. Et la grande distribution commence à répercuter le prix du fret sur les consommateurs. Le spectre de l'inflation, voire de la récession, pointe à nouveau son museau, sans que le gouvernement ne réagisse.
Ah pardon, mais là, au moment où on se parle, l'État fait des recettes indues, en réalité. L'État obtient des financements supplémentaires par rapport à ce que le budget a prévu, précisément, parce que l'augmentation du prix entraîne l'augmentation corrélative des taxes. Donc l'État se comportant comme un profiteur de crise, compte tenu l'angoisse dans laquelle cette augmentation plonge les Français, c'est pas admissible. Donc il faut trouver évidemment des solutions, non pas pour dégrader le budget de l'État, mais pour qu'au moins il ne se comporte pas comme un profiteur de crise.
Pour vous, l'État est un profiteur de crise ?
Bah oui, en l'État, oui, c'est un fait, c'est mécanique, si je puis me permettre. Mécaniquement, vous comprenez bien qu'il y a un renflement, en réalité, des recettes grâce à la TICPE et grâce à la TVA du fait de l'augmentation des prix.
Un renflement des recettes fiscales. Voilà qui n'aurait pas déplu au Stendhal de Bercy, Bruno Le Maire. En moyenne, les taxes sur le carburant représentent la moitié du prix à la pompe. Il y en a deux, la TVA qui est à 20% et l'accise, c'est un impôt sur la consommation dont l'objectif avoué est de dissuader l'usage de certains produits nuisibles pour la santé ou l'environnement. Plus les prix grimpent, plus le produit des taxes est élevé. De là à soupçonner que l'État mette à profit les hausses pour renflouer ses caisses, il n'y a qu'un pas. Mais la ministre de l'Énergie dénonce un faux procès.
L'idée que l'État s'enrichirait sur le dos de la crise n'est pas une idée qui s'installe dans le pays. C'est une idée que les politiques et qu'une partie des politiques sont en train d'installer dans le pays. Jamais l'État ne s'est enrichi sur le dos d'une crise. Jamais l'État ne s'est enrichi lors de chocs pétroliers. Vous savez bien que ça a un impact sur la croissance, que ça a un impact sur les volumes vendus, que ça a un impact sur les consommations et qu'in fine, c'est toujours très mauvais pour les finances publiques. Vous prenez l'exemple de l'Italie qui a en effet fait une remise à la pompe. Mais comment l'Italie finance cette mesure ? Comment l'Italie finance cette remise à la pompe ? L'Italie fait des annulations de crédits sur la sécurité, sur la santé et sur les services publics, sur les transports. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite pour la France ? Je crois que non. Et donc, la bonne réponse, c'est ce que nous faisons d'abord à l'échelle internationale. C'est l'initiative du président de la République pour libérer, dès que ce sera possible, la circulation dans le détroit d'Ormuz. Et ensuite, c'est l'accompagnement des secteurs qui font face à des difficultés de trésorerie, mais certainement pas des propositions démagogiques qui, à la fin, seront payées par le contribuable.
Pour le coup, le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, est presque d'accord avec la ministre. Écoutez-le dénoncer la proposition de Marine Le Pen.
C'est une mesure complètement... Qui vise en réalité à laisser indemne les profits des raffineurs ou des distributeurs et qui est contre-productif non seulement parce qu'il prive l'État de recettes, donc nous, mais surtout parce qu'en plus, quand vous baissez la TVA, d'abord, vous ne pouvez pas le faire par voie réglementaire et en plus de ça, vous n'avez aucune assurance que les prix à la pompe suivent. Il y a eu beaucoup d'exemples par le passé de prix bloqués au niveau de la TVA et qui n'a pas eu de répercussions. Donc la seule façon de le faire, c'est le blocage des prix. Et vous avez raison de dire que nous choisissons de jouer sur la marge des raffineurs. Cette guerre est faite en partie au nom du pétrole. Il serait quand même paradoxal que ce ne soient pas les pétroliers qui, d'une manière ou d'une autre, la payent.
En octobre 2000, Lionel Jospin, alors Premier ministre, avait mis en place un système qui est resté dans l'histoire sous le nom de TIPP flottante. TIPP, c'est l'acronyme de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Et cette taxe, c'est l'ancêtre de l'actuelle accise. La généalogie des impôts indirects, il n'y a que sur Pure Politique que vous trouverez ça. Va pour la TIPP, mais flottante, ça veut dire quoi? Stéphane Peu, le patron des députés communistes, vous explique de quoi il retourne.
Moi, quand j'étais avec Fabien Roussel chez Sébastien Lecornu, il y a 10 jours maintenant, je crois, nous avions proposé de remettre au goût du jour une proposition, une mesure qui avait été prise par Lionel Jospin d'ailleurs, qui était à l'époque la TIPP flottante, c'est-à-dire de rendre fluctuant les taxes en fonction du prix des matières premières, de façon à ce que ça n'ait pas de conséquences sur le prix à la consommation et que l'État voit ses taxes à peu près stabilisées en étant flottantes par rapport au prix des matières premières.
Le dispositif a été supprimé par Dominique de Villepin en juillet 2002. Il était jugé trop coûteux pour les finances publiques. Quoi qu'il en soit, Sébastien Lecornu ne veut pas qu'on touche à la taxation des carburants. Il l'a répété hier mercredi à l'occasion d'un débat dans l'hémicycle sur la dépendance française aux matériaux critiques et stratégiques.
Beaucoup de propositions ont été faites pour baisser le coût de l'énergie. Et une fois de plus, j'y reviens sans esprit polémique pour éclairer le débat public comme le veut l'esprit de ce débat. Certains veulent réduire la TVA sur l'énergie. D'autres pays l'ont tenté, notamment, vous le savez, la Pologne en février 2022. Au final, la TVA a été captée par les acteurs intermédiaires et le prix à la pompe n'a pas bougé. Pire, le retour d'expérience a démontré que lorsque la TVA a été rétablie, les prix ont augmenté car les intermédiaires ont conservé par la suite leurs marges. La baisse de la TVA est une mesure inefficace, mais aussi ruineuse pour les finances publiques, comme enfin pour les consommateurs. D'autres proposent, nous l'avons entendu hier lors des questions au gouvernement, de revenir à la taxe flottante sur les produits énergétiques, mieux connue sous l'acronyme de TIPP. Je veux rappeler que cette expérience a coûté 2,7 milliards d'euros aux finances publiques pour un effet moyen de seulement 2 centimes d'euros par litre. L'efficacité d'une telle manœuvre est donc objectivement et rationnellement quasi nulle. La Cour des comptes avait ensuite estimé que cette mesure avait engendré une perte de 600 millions d'euros sur l'année 2004, pour une raison simple, quand le prix augmente, les quantités vendues diminuent.
Alors on fait quoi? Pas grand-chose. Car tout va bien ou presque, nous dit Sébastien Lecornu, même si vous avez l'impression qu'on vous balade.
Il n'y a pas aujourd'hui de risque de pénurie pour notre pays. Nos approvisionnements sont sécurisés, nos stocks pétroliers sont mobilisables, notre système tient. Et notre parc nucléaire est dans une situation de rendement bien supérieure par rapport à l'année 2022. Nous sommes face, mesdames et messieurs les députés, à un problème de coût de l'énergie, pas à un problème d'accès à l'énergie. Et c'est précisément sur ce terrain que le gouvernement oriente et adapte son action sous l'autorité des ministres concernés. Il agit évidemment en aval, là où les Français subissent directement les effets de la crise. Nous avons engagé un travail étroit avec les distributeurs pour maîtriser les marges et éviter tout effet d'aubaine. Nous disposons d'outils de coercition, mais le dialogue a été privilégié depuis le début de la crise et il faut le reconnaître et le souligner. Il a produit des résultats.
Notre parc nucléaire marche à plein régime, dit le Premier ministre, assurant ainsi une grande part de notre indépendance énergétique. Sauf qu'il y a un caillou dans le potage. Que dis-je? Un menhir. Vous pensiez certainement que le prix de l'électricité était fixé par la France et qu'il dépendait du coût de production. Eh bien non, c'est l'Europe qui décide. Merci la libéralisation du marché européen de l'électricité. Le prix est fixé à partir du coût de production d'une centrale à gaz. Tout simplement parce que nos voisins produisent encore de l'électricité avec des centrales qui fonctionnent au gaz. Ce qui rend la situation particulièrement injuste pour le consommateur français. Car le coût de production de l'électricité par une centrale nucléaire est très nettement inférieur à celui d'une centrale à gaz. Il faudrait donc découpler le marché de l'électricité de celui du gaz, au moins pour les filières qui produisent de l'électricité décarbonée, les énergies renouvelables et le nucléaire. En 2023, l'Europe a commencé à mettre en place une réforme qui devrait conduire à un découplage avec le gaz. Mais les producteurs français, EDF, Engie, Total Energy, y sont hostiles, car l'abandon de l'indexation sur le gaz entraînerait une diminution de leurs bénéfices. Donc ils traînent des pieds. Autrement dit, les Français ont payé pendant des années un formidable parc nucléaire dont ils ne peuvent pas profiter. Cette question du prix de l'électricité est particulièrement choquante au moment où il s'agit de faire basculer les consommateurs vers des véhicules électriques. Non seulement ces derniers restent d'atteinte pour une grande partie de la population, mais l'énergie qui les alimente voit son prix s'envoler alors qu'elle pourrait devenir un véritable avantage concurrentiel dans la transition écologique. La guerre contre l'Iran se prolonge. Il est question maintenant d'intervenir au sol, ce qui éloignerait toute perspective de retour à la normale avant des mois, voire des années. Le déblocage par l'Agence internationale de l'énergie de 400 millions de barils de pétrole prélevés sur les stocks stratégiques a permis de ralentir l'envolée des prix. Mais l'effet de cette décision vient à son terme. Le gouvernement doit maintenant proposer une vraie politique de soutien du pouvoir d'achat. Sans doute la campagne présidentielle qui commence l'incitera à retrouver un peu d'audace. Enfin, on l'espère. Merci d'avoir regardé cette chronique. Comme à l'ordinaire, ne lésinez pas sur les pouces et les partages. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait plaisir à l'algorithme et cela vous permettra d'être averti chaque fois qu'un contenu est mis en ligne. Pour nous soutenir, c'est sur Donorbox que ça se passe. On ne le dira jamais assez, vos dons constituent la principale ressource de Pure Politique. Merci à tous ceux qui nous accompagnent fidèlement. On se retrouve lundi pour un nouveau Pôle Express.